Lettre ouverte aux bandits de la finance, le titre donne le ton, vous l'aurez deviné, il s'agit de banquiers et autres spéculateurs qui nous ont plongés dans la crise financière et économique actuelle. Lettre ouverte aux bandits de la finance, c'est le dernier ouvrage du journaliste et écrivain français Jean Montaldo, qui est paru aux éditions Albin Michel. Jean Montaldo qui est ce matin notre invité en direct du studio de Radio France Vaucluse à Avignon. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur les ondes de la radio suisse romande.
Alors pour les c'est moi qui vous remercie.
Et alors pour les rares auditeurs suisses qui ne vous connaîtraient pas encore, éventuellement, on peut rappeler que vous avez publié beaucoup d'ouvrages, notamment des ouvrages sur le thème de l'argent, sous forme d'enquête journalistique. Votre best-seller, c'était il y a une quinzaine d'années, Mitterrand et les 40 voleurs. Vous démontiez les us et coutumes d'individus qui se trouvaient tout en haut de l'État. Là, c'est la crise qui vous occupe et vous la traitez sous un angle criminel. Vous dites cette crise qu'elle n'est pas forcément bancaire ou financière, mais qu'elle est d'abord criminelle, une histoire de bandits, c'est votre titre, bandits. C'est vraiment des bandits qui se sont mis plein les poches avec la bénédiction ou tout au moins l'incurie des autorités, c'est vraiment ça?
C'est le moins qu'on puisse dire. Je parle d'une conspiration criminelle et je le prouve avec les noms des individus, des hauts dirigeants de banques internationales, d'abord aux États-Unis, ensuite en Europe. Et là, il ne s'agit pas des Suisses. Il s'agit des Anglais, il s'agit des Français, dans une moindre mesure des Espagnols, des Italiens, voire des Allemands ou des Autrichiens.
Alors cette crise, puisqu'on parle de crime, cette crise, elle a été annoncée dès 2004, vous le dites dans votre ouvrage, dès 2004 par le FBI, vous avez des preuves à l'appui. Pourquoi, en 2004, alors qu'on sentait les choses, pourquoi personne n'a bougé?
C'est ça qui est incroyable. Voyez-vous, quand la crise est intervenue avec cette particulière violence que nous avons connue en septembre-octobre dernier, pour se prolonger jusqu'en décembre-janvier pendant tout l'hiver, étant expert des affaires financières, à vrai dire, je n'y comprenais rien. J'ai eu à peu près tous les livres qui ont paru sur le sujet, beaucoup d'articles. Il ne ressortait rien de tout cela. On ne pouvait pas comprendre comment, à partir de la spéculation sur les subprimes, c'est-à-dire des crédits accordés à des gens modestes, voire pauvres et insolvables, tout d'un coup, l'économie mondiale sautait, explosait. Alors, j'ai poursuivi les investigations jusqu'aux États-Unis et partout en Europe pour découvrir que dès 2004, le FBI, c'est-à-dire le principal organisme d'enquête aux États-Unis, avait parfaitement diagnostiqué le mal et avait prévenu non seulement le gouvernement des États-Unis, mais les banques centrales et les banques du monde. Les avertissements avaient été donnés par la suite deux sénateurs, un républicain et un démocrate.
Qui ne sont pas des inconnus.
On va les retrouver tous les deux, d'ailleurs, opposés pour la conquête de la Maison-Blanche. Il s'agit de John McCain et de Barack Obama. L'un et l'autre se sont emparés du dossier et ont, je veux dire, séparément, mais de la même manière, proposé que soient adoptées des lois pour réprimer les atteintes portées au marché financier. Ils avaient vu, l'un et l'autre, Barack Obama un peu plus que John McCain, que le monde allait à l'abîme. Et on leur a jeté le papier à la figure. Barack Obama demandait, dès 2005, que soient punis de 35 années de prison les conspirateurs qui ont fait sauter l'économie mondiale en 2008. Comment a-t-il pu se faire que ces avertissements, et du FBI, et du Congrès américain n'aient pas été entendus? Comment a-t-il pu se faire que les États du monde aient permis à des financiers irresponsables, agissant uniquement en raison d'une cupidité insondable, puissent tout faire sauter?
Alors ça, c'était en 2005, hein, Barack Obama avait vu juste, comme vous l'avez dit, il est depuis président... Oui, mais depuis lui, il est président des États-Unis. Vous pensez qu'aujourd'hui, il a la possibilité de punir ces criminels?
Bien sûr.
Il va le faire.
Et d'ailleurs, aux États-Unis, des poursuites sont déjà engagées. Il n'y a pas que Madoff qui est poursuivi, il y en a d'autres. Beaucoup d'autres, des investigations fouillées sont lancés et tout ça se passe sous la place publique, à la différence d'ailleurs de ce qui se passe en France, où en France on n'ouvre que des enquêtes préliminaires qui ne débouchent sur rien. Et lorsqu'elles débouchent sur quelque chose, ça se termine par des non-lieux. Bon, aux États-Unis, vous avez des poursuites qui sont lancées, démocratiquement bien sûr, contradictoirement, les individus impliqués étant appelés à s'expliquer, mais au moins, la justice avance. Et pour ce qui concerne le président Barack Obama, les solutions qu'il a proposées, les mesures qui ont été adoptées, me paraissent tout à fait acceptables et à la hauteur du drame que nous venons de vivre, et qui d'ailleurs risque de nouveau se reproduire avec des produits toxiques en circulation qui représentent aujourd'hui 400 000 milliards de dollars. Je répète, 400 000 milliards de dollars.
Ça veut dire, Jean Montaldo, c'est très important, ça veut dire que certains nous promettent une sortie de crise pour fin 2009, début 2010. Vous vous dites pas du tout, au contraire, il y aura une deuxième vague, et là vous articulez ce chiffre fabuleux de 400 000 milliards de produits titrisés en circulation, de produits pourris, c'est ça ?
Totalement pourris. Et qu'on n'arrive pas à localiser. Il faut savoir que tous ces produits-là qui ont été mis en circulation par les grands établissements financiers du monde, américains certes, mais aussi européens. Ces produits-là sont commercialisés par des hedge funds, c'est-à-dire des fonds spéculatifs qui ont été logés dans des paradis fiscaux. Il ne s'agit pas de la Suisse, là. Il s'agit, dans une écrasante majorité, des îles Caïmans, c'est-à-dire un territoire de boîte à lettres, n'est-ce pas, sans aucun contrôle, balance sur la terre entière ces produits toxiques que les banques s'échangent entre elles, hors bilan, sans que personne ne puisse savoir de quoi il s'agit. C'est une pollution, mais que le FBI avait parfaitement repéré et qui s'est développé depuis et qui continue d'ailleurs à l'heure où je vous parle, qui continue à fleurir sur toute la planète. Je voyais encore ces derniers jours de nouveaux produits inventés par deux banques françaises, la Société Générale, moi je donne les noms, la Société Générale ou le Crédit Agricole, à partir du Luxembourg, avec des produits qui sont nauséabonds. Et alors même que ces deux établissements étaient, il y a encore quelques mois, en état de virtuelle faillite, ou en tous les cas en grande difficulté, renflouée par l'État français.
Vous nous promettez l'apocalypse, là, quasiment, Jean Montaldo.
Oh, je ne promets rien du tout. Je ne suis qu'un expert qui regarde les choses. Je ne suis pas corrompu. Que lorsque j'enquête tous azimuts, aux États-Unis, en Europe, en France, bien sûr, dans mon pays d'abord, et que je vois qu'il existe des organisations criminelles, qu'on laisse impunis développer un commerce factice pour simplement, enjoliver leur bilan, présenter des faux bilans aux actionnaires, oui, justifier les salaires de Maharaja, de leur PDG, des stock options d'émir du pétrole. Qu'est-ce que tout cela veut dire?
Et la Suisse, Jean Montaldo, c'est un pays que vous connaissez bien, vous allez souvent à Genève, ces banques ont dû lâcher du lait sur le secret bancaire, le système financier est un peu en péril, dit-on. La Suisse, dans cette affaire d'apocalypse, de subprime, de seconde vague, vous la voyez comment? Elle a un rôle à jouer? Elle est au cœur du cyclone ou pas?
Comme tous les autres États. Pas plus et pas moins. On fait des procès à la Suisse, mais au prétexte que ce serait un paradis fiscal. D'ailleurs, je vous signale que s'il y a paradis fiscal, c'est qu'il y a de l'autre côté des enfers fiscaux. Si les États ne vivaient pas au-dessus de leurs moyens, avec pour conséquence une aggravation de la pression fiscale sur leurs concitoyens, les citoyens américains, français, allemands, anglais ou belges ne mettraient pas leur argent dans les paradis fiscaux. Ça, c'est un premier constat. Maintenant, pour ce qui concerne la Suisse, c'est vrai qu'il y a quelques établissements suisses, notamment UBS, qui ont été impliqués dans l'affaire des subprimes, des produits dérivés, des produits dits titrisés, dans les mathématiques financières du diable, etc. Tout ça est parfaitement exact. Mais lorsque je vois, par exemple, prenez l'affaire Madoff. Madoff, c'était un escroc qui ne volait que les riches, les têtes couronnées. Mais en face, vous avez une multitude de banques, des plus grandes banques du monde, qui volaient les pauvres pour des milliards et pour des milliers de milliards de dollars.
Ils doivent passer à la caisse aussi, ceux-là.
Mais bien évidemment.
Et les réviseurs de comptes. Vous citez aussi des réviseurs de comptes qui devraient passer à la caisse aussi.
Mais tous. Donc je reviens à l'affaire Madoff. On implique UBS, mais pardon, dans la lettre ouverte aux bandits de la finance, moi je prends mes responsabilités, je donne les noms. Qu'est-ce que je découvre ? Un document qui a été caché à la justice, qu'on avait cru faire disparaître. On voit que, outre UBS impliqué chez Madoff, il y avait en France la Caisse dépôt et consignation et les caisses d'épargne, à travers leur filiale Ixis Investor Service.
Oui, ils sont quasiment des banques étatiques, oui.
Mais évidemment.
Évidemment, là, il y a une vision apocalyptique, un tsunami va déferler sur le monde. Est-ce qu'il est encore temps de trouver des solutions pour éviter le pire ?
Bien sûr, mais ça ne peut. Les mesures ne peuvent être prises que par les grands chefs d'État.
Par le G20,
notamment,
c'est ça.
Par le G20, bien sûr. Qui d'autre ? J'ai le sentiment, après cette longue enquête, qui m'a pris des mois et des mois, et fouiller, rechercher les documents les plus secrets, j'ai le sentiment que seuls les chefs d'État peuvent empêcher ce coup d'État des banques, des grandes banques du monde, réussissent et fassent exploser totalement les économies de la planète. C'est à leur niveau que ces choses-là peuvent se décider, avec des lois, bien sûr, et sans prendre des boucs émissaires tels que la Suisse ou le Luxembourg.
Est-ce que le capitalisme peut être vertueux ?
J'ai toujours milité pour un capitalisme. Moi, je ne suis pas un altermondialiste. Je ne suis pas un sympathisant des socialistes ou des communistes.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Je suis un libéral convaincu. Je crois à un libéralisme régulé et à un capitalisme vertueux, et certainement pas un capitalisme sauvage. Lorsque, d'ailleurs, je publiais dans les années 70-80 une suite de livres sur le Parti communiste français, sur la banque soviétique en France, je disais quoi ? Le Parti communiste français et les soviétiques à l'époque avaient développé dans le monde capitaliste un système pour se financer, un système copié sur celui de la mafia sicilienne, utilisant les méthodes du capitalisme le plus sauvage. Il est quand même singulier de voir aujourd'hui des établissements bancaires américains, anglais, français, allemands, suisses bien sûr, mais aussi italien, espagnol ou grec, utiliser les méthodes du capitalisme les plus sauvages pour enjoliver leur bilan et justifier ce que je fustigeais tout à l'heure, ces salaires de Maharaja alloués à des dirigeants pour des résultats qui sont inversement proportionnels à leurs résultats.
Jean Montaldo, vous êtes notre invité jusqu'à 8h, lettre ouverte aux bandits de la finance. On va lire la presse tous ensemble, il y a des sujets qui vont pouvoir vous faire réagir. Alors la presse, elle est alémanique, elle est romande et elle disserte, Jean-François Moulin et Delphine Gendre, sur le 1er août, Jean Montaldo, c'est la fête nationale suisse.
Alors, elle disserte sur un 1er août, un 31 juillet, pour cause de non-parution de quotidien demain. Alors d'abord ce cri lancé à la une du temps, adhérer à l'Union européenne.
Commence fort. Hein.
Un appel solennel dans une Suisse isolée suggéré par le club helvétique, où figure une poignée d'intellectuels suisses, dont Joël Kunz, journaliste au Temps, qui dans les colonnes de ce même quotidien se penche sur le thème de l'isolement où se trouve actuellement la Suisse. Cette Suisse qui a besoin d'amis. C'est joli ça, cette Suisse qui a besoin d'amis, constate Jean-Jacques Roth dans un éditorial. Mais alors que vont dire nos chers voisins français, eux qui aiment tant parler de leurs amis suisses ? Enfin, c'est fini pour l'instant. La Suisse, écrit notre confrère du Temps, n'est plus ce précieux stabilisateur qu'on a longtemps protégé, mais le perturbateur qu'il s'agit de remettre à l'ordre. Le débat sur l'adhésion vient à point nommé. Est-il de meilleure ambition pour un jour de fête nationale ? Conclut notre confrère. Un 1er mai.
1er août.
Je confonds ces deux dates. C'est un joli lapsus. Bon, ce 1er août, on y revient. Parfait pour sonner le réveil, clame Pierre Rucci dans la tribune de Genève, qui invite les responsables politiques à briser les tabous et dénis qui figent notre société. Françoise Quenzi, elle, dans l'Express de Neuchâtel et l'Impartial, se demande même si l'on doit être fier de notre démocratie dans un commentaire intitulé « Une Suisse pour chacun ». Voilà pour le constat auquel répond un espoir, celui du courrier qui rêve d'une Suisse pour tous. Pas question pour autant de cracher sur ce 1er août, prévient Pierre Brenkiewicz-Oppert dans le journal du Jura, pour qui la Suisse a besoin d'un Guillaume Tell, d'un Winkelried, pour remettre à l'ordre, je cite, « ce chamelier fou de Kadhafi ». Car le 1er août pour notre confrère ne sert pas seulement à sauver de l'oubli quelques politicards à la rhétorique moins lumineuse que les feux éponymes. Voilà qui résonnera aux oreilles de Christian Luchaire, candidat marcheur vers le Conseil fédéral, qui sait faire parler de lui, attention à l'overdose, l'un des seuls en tout cas à discourir demain avec Christophe Darbelay. Les autres papables manqueront-ils une occasion, se demande la tribune, tout en relevant que l'exercice peut comporter un risque. Alors, voilà un thème de réflexion suggéré par le quotidien jurassien pour nos valeureux orateurs au charme bucolique. Où va la Suisse ? C'est osé.
Où va la Suisse ? Jean Montaldo, je vous renvoie la question. Elle doit adhérer à l'Union européenne ?
Oui, pourquoi pas ? Mais enfin, la Suisse a ses lois, elle a sa constitution, elle a son peuple, elle a ses usages qui sont éminemment démocratiques et moi, personnellement, que j'admire. Ce n'est pas en France qu'on organise des référendums comme partout en Suisse, en donnant la parole au peuple.
Elle aurait à perdre à adhérer à l'Union européenne, vous pensez ?
À perdre, non. Elle gardera sa personnalité et son originalité. L'Europe restera l'Europe des patries. Et il convient qu'elle cesse d'être l'Europe des patrons.
Jolie formule.
Demain donc, 1er août, hein, fête nationale en Suisse, mais aussi fête nationale au Bénin.
Oui, son ambassadeur en Suisse, Séraphin Lissassi, dit à cette occasion aux lecteurs du quotidien Balois tout le bien qu'il pense de notre pays. Pour ce petit État d'Afrique, la Suisse est un exemple de démocratie. Là-bas, dit-il, il n'est pas encore envisageable d'organiser des votations populaires, mais nous sommes sur le bon chemin. La démocratie directe, le fédéralisme, l'autonomie fiscale, des notions qui font rêver l'ancien maire de Premana, village italien sur les bords du lac de Côme. Dans une interview publiée par la Neue Luzerner Zeitung, Pietro Caverio explique pourquoi il veut faire sécession avec l'Italie et se rallier à la Suisse. Ce village de montagne qui compte 2300 âmes n'en peut plus de l'indifférence italienne à son égard. Il se voit déjà rattaché au canton des Grisons. Au moins, eux savent ce que c'est que d'avoir des rues enneigées en hiver. Enfin, le Blick donne la parole à l'intellectuel zurichois Adolf Mouchk. Dans un entretien, le septuagénaire évoque l'autarcie de la Suisse, le choc suissaire, le vacillement des grandes banques et la visite de Micheline Calmiret à Washington. Il voit dans la ministre des Affaires étrangères une sorte de mère de famille qui se rendra à un entretien avec la maîtresse d'école et qui reviendra sans doute en avertissant ses enfants de ne plus jamais se comporter comme ça.
15h30, heure suisse, tout à l'heure du côté de Washington.
Micheline Calmiret, ministre des Affaires étrangères, se retrouvera donc face à Hillary Clinton, la conseillère fédérale, écrit Viviane Ménétré dans Le Matin, et la dernière ministre suisse à se rendre à Washington avant la date butoir du 3 août, à laquelle devrait commencer le procès UBS aux États-Unis. Alors on se met à rêver d'un épilogue plutôt heureux. D'aucuns, écrit notre consoeur, espèrent et imaginent qu'une issue pourrait être trouvée. Cela dit, pour l'avocat d'affaires lausannois Philippe Kennel, qui se livre dans les colonnes du matin, il sera difficile pour le gouvernement suisse de communiquer sur cette affaire, car il faudra, explique-t-il, comment l'État vient au secours d'une entreprise privée qui a fauté. La cause du BS est devenue celle de la Suisse. Et j'espère, conclut l'avocat, que notre pays ne fera pas de concessions sur d'autres dossiers pour sauver la banque.
Alors, votre expertise de journaliste spécialisé dans le monde de l'argent sur cette affaire UBS Suisse, Jean Montaldo, la Suisse qui refuse, enfin l'UBS qui refuse de livrer 52 000 noms de ses clients américains, et la raison de le faire, vous voyez comment l'issue de cette guerre, oui.
Écoutez, en Suisse, il y a des lois. Les lois sont adoptées par le peuple suisse. La Suisse est un État souverain qui vit depuis toujours du secret bancaire. Pourquoi violerait-il le secret bancaire ? Alors, les Américains, de même manière que les Français, les Anglais, enfin tous les grands États occidentaux, reprochent à la Suisse son secret bancaire, finalement. Hein. Que je sache, les dictateurs, par exemple, qui polluent la planète. Vous savez qu'il y a deux tiers des des pays du monde, qui sont présents d'ailleurs à l'Organisation des Nations Unies, qui vivent sous dictature. Ces dictateurs, qui sont des potentats avares et sanguinaires, évacuent leur argent.
Mais là, il est question de la Suisse et des États-Unis. Il y a d'autres intérêts en jeu.
Les mêmes dictateurs ont des biens immobiliers aux États-Unis, en France. Et alors là, on dit rien.
Alors pourquoi ? Pour quelle raison, selon vous ?
Parce qu'il y a deux poids et deux mesures. Et c'est toujours la recherche de boucs émissaires. Si on veut vraiment nettoyer la planète finance, si on veut nettoyer le monde de tous ces bandits qui menacent nos États, eh bien, il faut prendre le taureau par les cornes, inviter certes les Suisses à coopérer, mais en demandant aussi aux autres États de battre leur coulpe et que tous on joue carte sur table. On ne peut pas désigner la Suisse comme un fauteur de troubles, alors que l'on sait que le mal est bien plus grand ailleurs. Lorsque j'écris les bandits de la finance, qu'est-ce que je découvre ? Je découvre que Angelo Mozillo, le parrain des subprimes, il corrompait le Congrès américain. Ouais. Que fait-on là ? C'est autrement plus grave,
d'accord,
puisque là, c'est l'économie mondiale qui a sauté.
La Suisse n'est qu'un bouc émissaire dans l'histoire. Quand les portiers des grands hôtels indiquent la direction de la Mecque, Delphine Gendre, pardon.
À Zurich, les hôteliers se préparent au Ramadan, qui aura lieu du 22 août au 20 septembre, car les touristes arabes sont de plus en plus nombreux dans la métropole alémanique. Ils ont plus que doublé en 5 ans. Pas étonnant donc si les grands hôtels de la capitale économique se mettent en quatre pour satisfaire ces touristes fortunés. 15 établissements viennent de conclure une sorte de charte d'accueil, nous dit le Tagesanzeiger. Ces hôtels mettent à disposition des tapis de prière. Ils proposent des menus halal dès la tombée de la nuit et remplacent l'alcool des minibars par des jus de fruits.